Ce soir, sur Campus Grenoble.
90.8.
Nous ferons ce qui est interdit.
Nous irons ensemble à la buvette.
C'est l'apéro.
Phonie.
L'exception radiophonique.
L'apérophonie.
De la culture.
Et de la musique.
Au shaker et à la cuillère.
Campus Grenoble 90.8.
L'association Arménie Échange et Promotion organise une conférence le 14 mars à la Maison de l'International sur l'Arménie, un génocide de basse intensité dans le nouveau désordre mondial, avec Hilda Tchoboyan. Je vous propose un entretien avec elle divisé en deux parties. En premier lieu, nous remonterons à la fin du 19e siècle avant le génocide arménien. Et dans la seconde émission, vous aurez un état des lieux politiques de l'Arménie, ainsi que des relations diplomatiques aux alentours, de l'Azerbaïdjan à Israël, en passant par l'Iran, la Russie, la Géorgie et les États-Unis. Aujourd'hui, nous sommes à Lyon avec Hilda Tchoboyan. Vous êtes présidente du Centre Kafkas, un centre pour le droit et la résolution des conflits, ainsi que vous dirigez la coalition Libertas pour la libération des prisonniers de guerre arméniens.
Oui, bonjour.
Nous sommes ici pour discuter de l'actualité géopolitique de l'Arménie, puisque vous allez faire une conférence le 14 mars à la Maison de l'International de Grenoble, qui soulève deux questions. La première, c'est dans quelle mesure le choc Est-Ouest issu de la guerre en Ukraine est-il de nature à créer des conditions géopolitiques qui précipiteraient la chute de l'Arménie? Et la seconde, la communauté internationale laissera-t-elle parachever par l'État turc un siècle après l'extermination des Arméniens de leur terre historique d'Arménie occidentale le processus génocidaire, cette fois sur leur terre d'Arménie orientale?
Oui, compliqué.
Ouais, un sujet assez complexe.
Ouais.
Donc avant de rentrer là-dedans, moi j'aimerais qu'on fasse un peu un historique de tout le conflit et aller dès le début du XXe siècle avec le génocide.
Oui, tout à fait, oui. Alors, la question du Karabakh, du Haut-Karabakh, Artsakh en arménien, est une question classique de territoires qui sont passés d'une main à l'autre dans des empires, d'un empire à l'autre, qui se sont disputés des territoires. Donc ça a été le cas du Caucase, du Caucase du Sud. En réalité, cette région n'a rien à voir avec le Caucase, les montagnes du Caucase, mais il est convenu d'appeler les trois pays de l'ex-Transcaucasie le Caucase du Sud, c'est-à-dire l'Arménie, l'Azerbaïdjan et la Géorgie. Et cette région, l'ensemble de cette région, est passée d'une main à l'autre, c'est-à-dire l'Empire ottoman, l'Empire perse, l'Empire russe se sont disputés cette région. Donc c'est cette région qui se trouve à l'est de la Turquie d'aujourd'hui, au nord-ouest de l'Iran et au sud de la Russie, en tout cas du Caucase. Du Caucase, des républiques autonomes du Caucase, c'est-à-dire la Tchétchénie, l'Ingouchie, le Daghestan, la Karaïtchevo-Tcherkessie, etc. Donc c'est de toutes petites républiques musulmanes, en très grande majorité, dans le sud de la Russie, que la Russie a colonisé et qui sont la barrière entre le Caucase du Sud et la Russie. Voilà. Donc ces trois régions, ces trois pays, qui ont eu des géographies différentes, et on en parlera si vous voulez bien, sont passés à la faveur des guerres entre les empires, les trois empires qui se sont disputés. Alors on ne parle pas de Byzance, on ne parle pas de Rome, on ne parle pas de l'Empire perse, etc., mais on parle du 19e siècle, disons 18e siècle. Ces trois empires se sont disputés cette région, comme d'autres régions aussi. Eh bien, lorsque ces pays sont devenus indépendants,
en quelle année du coup ?
1918, à la faveur du retrait des forces russes de ces frontières-là, à cause de la révolution russe, 1917, ces pays se sont trouvés face à leurs limites, à leurs frontières. Et pour les frontières, ces pays se sont fait la guerre parce qu'il y avait les histoires antiques, la présence des peuples un peu mélangés dans ce qui est devenu ces trois pays, Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan, et la revendication de chacun d'avoir ses propres frontières, en tout cas le plus loin possible, placer ses frontières dans le plus loin possible. De ces trois pays, l'Azerbaïdjan était un nouveau venu. C'est un pays qui n'avait jamais existé en tant qu'Azerbaïdjan, en tant que territoire qui avait une caractéristique différente des empires. L'Azerbaïdjan a été constitué sous la pression de la présence des jeunes Turcs qui ont réalisé d'un côté le génocide des Arméniens de l'Empire ottoman, mais en Transcaucasie, au Caucase du Sud, les jeunes Turcs ont imposé le nom Azerbaïdjan même et la création de cette république proclamée en 1918 comme les deux autres, avec une vision très lointaine de ce que devrait être l'Empire turc, l'Empire ottoman et ensuite l'Empire turc, dans le cadre d'une idéologie qu'on appelle le panturquisme. C'est-à-dire que la Turquie, avec l'Azerbaïdjan, constituait le premier échelon d'un empire qui devait s'étendre jusqu'en Asie centrale, jusqu'aux portes de la Chine. Et là, on parle beaucoup aujourd'hui, par exemple, des populations musulmanes de la Chine qui sont réprimées. Eh bien, cet empire dans l'idéologie, en tout cas dans l'imaginaire turc, cet empire turcophone, turc, voire même panturquiste, devait arriver jusqu'aux portes de la Chine. Et l'Arménie se trouve juste au milieu de cette... L'Arménie, la Géorgie, bien entendu, deux pays chrétiens qui se trouvent juste au milieu de tout cela. Bon. Bien entendu, il y a la question religieuse, mais la question religieuse n'est pas le seul attribut du conflit, de la raison du conflit. C'est une question territoriale, c'est une question d'identité, c'est une question d'expansionnisme, c'est une question coloniale, quelque part, puisque ces régions-là ont été les colonies d'empires auxquels ces régions n'appartenaient pas, du point de vue historique et du point de vue culturel, voire même religieux. Les Arméniens sont chrétiens, mais ils ne sont pas orthodoxes, donc la Russie était une puissance coloniale. Les Persans sont musulmans chiites, donc l'Arménie ne faisait pas partie de cette religion, l'Arménie chrétienne. Et la même chose pour la Turquie, qui était un empire sunnite et à laquelle l'Arménie ne pouvait pas s'identifier non plus. Donc ce sont des corps étrangers que les empires se disputent ces trois empires, ont des velléités de se soumettre ces régions pour leurs intérêts économiques, stratégiques, géostratégiques, voire même culturels, puisque le panturquisme est aussi aujourd'hui réduit dans un premier temps à un mouvement culturel, c'est-à-dire l'union entre les peuples turcophones au niveau culturel et éducatif, sur un projet sur lequel la Turquie dépense beaucoup, beaucoup d'énergie et beaucoup d'argent pour créer donc cette espèce d'unité jusqu'en Asie centrale et jusqu'aux portes de la Chine. La question, c'est aujourd'hui, que deviendra de cette région à la faveur des nouveaux mouvements entre les empires, mais entre les puissances régionales, ce qu'on a considéré comme des puissances régionales, des superpuissances, etc. Que deviendra cette région? Quelle sera l'architecture de cette région après 70 ans de soviétisation et après 30 ans d'indépendance de ces trois pays?
C'est assez complexe et on voit que ça remonte en fait encore plus ancien, tous les conflits. La question que je vais poser, c'est qu'est-ce qu'était l'Azerbaïdjan avant la création par les Turcs?
Alors, l'Azerbaïdjan, c'était un territoire, bien sûr, qui faisait partie de l'Iran, de l'Empire iranien, comme l'Arménie, une bonne partie de l'Arménie d'aujourd'hui faisait partie de l'Empire iranien. Mais la population compacte arménienne est aussi une population qui a des caractéristiques propres. Les populations azerbaïdjanaises d'aujourd'hui, leurs ancêtres, étaient constitués d'une part par les tribus turcophones venues d'Asie centrale, c'est-à-dire les Mongols, quelque part, enfin pour dire très globalement, des Mongols, des Turkmènes, etc., et qui se sont convertis donc à l'islam chiite dans cette région, mais qui parlaient le turc, considérant la proximité de leur langue d'origine turcique de l'Asie centrale et la présence turque de l'Empire turc dans la région où il y a eu des incursions, des retraits, etc. de l'Empire turc. Donc ces populations étaient les restes de ces populations turciques venues d'Asie centrale. C'était en général jusqu'au XVIIIe siècle des nomades qui sont arrivés dans la région par vagues successives à partir du XVe, du XIVe, du XVe siècle et qui ont petit à petit se sont installés, se sont sédentarisés et qui sont devenus une population turcophone mais de religion chiite et dans l'Empire iranien, voire même aujourd'hui l'Iran d'aujourd'hui, leur présence ne posait pas de problème à l'unité, j'allais dire, nationale iranienne. Or, à partir de 1918, avant même, disons, à la fin du 19e siècle, le mouvement panturquiste est né et les idéologues de ce mouvement ont considéré que cette région devait constituer une annexe, une sorte d'annexe de la Turquie qui était de plus en plus en train de se transformer en État-nation, l'Empire turc qui devenait l'État-nation turc d'aujourd'hui, et la région de l'Azerbaïdjan d'aujourd'hui devait constituer donc une sorte de porte vers l'Asie centrale, vers le retour aux origines des peuples turcs qui sont venus s'installer en Asie centrale, en Asie mineure, où il y avait essentiellement des populations arméniennes et grecques, avant les invasions des peuples venus de l'Est. Voilà, donc globalement, ces régions étaient habitées par des peuples qui n'avaient pas de caractéristiques propres en dehors de leur langue, mais qui étaient extrêmement assimilés dans la population iranienne de l'époque, sauf la langue, qui était une langue qui était entretenue par les invasions régulières par l'armée turque, en tout cas par la Turquie, l'armée turque, l'armée ottomane, pardon, turcophone, etc., qui ont pénétré à plusieurs reprises dans la région. Donc l'Azerbaïdjan, c'était une masse. Et il a fallu, pendant l'époque soviétique, un peu selon les directives du Parti communiste soviétique, il a fallu se créer une culture propre, parce que l'Azerbaïdjan s'est créé, mais il n'y avait pas d'histoire de l'Azerbaïdjan. Donc c'était une histoire qui a été créée, je ne dirais pas de toute pièce, mais qui a été fabriquée. Il y a eu la fabrique de l'histoire nationale azerbaïdjanaise dans les années 50, parce que l'Union soviétique encourageait les peuples qui constituaient les républiques soviétiques de se constituer une identité nationale. Et cette identité nationale s'est construite à partir des années 50, s'est construite aux dépens des peuples environnants, aux dépens des minorités qui ont constitué les vrais habitants de ces régions avant l'arrivée des tribus turques, turciques de l'époque. Donc il y avait, et l'Azerbaïdjan, à l'origine, jusqu'au début du XXe siècle et jusqu'au milieu du XXe siècle, était un creuset extraordinaire de populations qui avaient des langues propres, qui avaient des religions propres. Et dans la fabrique de l'histoire, dans la fabrique de cette identité, l'Azerbaïdjan a dû s'approprier, tout en persécutant ces minorités, s'approprier leur culture et pour se fabriquer une culture nationale. Donc c'est ce qu'on peut dire aujourd'hui des tentatives de l'Azerbaïdjan de détruire les monuments arméniens ou de les nationaliser, c'est-à-dire d'exclure l'élément arménien dans ces territoires, notamment dans la région du Karabakh et autour du Karabakh, et de dire que c'est l'ancien peuple des Albaniens du Caucase qui était en fait, qui avait construit toutes ces églises, tous ces monastères, des milliers et des milliers de monuments arméniens, et de considérer que ces monuments appartiennent à l'Azerbaïdjan, mais en fait, les Arméniens sont venus, ils ont inscrit leur nom, leur alphabet dessus, etc. Donc c'est une histoire, j'allais dire, abracadabreste, qui ne convainc personne, sauf le peuple azerbaïdjanais, qui est endoctriné avec cette idée qu'il y avait une culture inconnue azerbaïdjanaise et que les Arméniens sont venus, ils ont changé cette culture et ils se sont appropriés les productions et les créations de cette culture. Voilà pour ce qui concerne un peu l'actualité aussi de la relation entre la culture arménienne et la culture azerbaïdjanaise.
Est-ce qu'on peut revenir aux origines du génocide arménien ? Quels sont les différents blocs ? Ça, vous l'avez répondu, mais quelles en sont vraiment les origines, la nature du conflit ?
D'accord. Donc, le génocide des Arméniens, c'est un processus. En fait, on parle de 1915, mais le processus génocidaire des Arméniens dans l'Empire ottoman a commencé bien avant. C'est à partir des massacres de 1895-96, même s'il y avait eu des massacres d'Arméniens par l'Empire ottoman, organisés par le sultan avant. Mais c'est donc en 1895-96 qu'il y a eu les premiers grands massacres d'Arméniens qui ont fait entre 200 et 300 000 victimes, mais dont les conséquences ne sont pas seulement les vies humaines. C'est aussi des milliers d'églises arméniennes, de monastères arméniens détruits. C'est aussi toute une culture qui a été éradiquée. C'est aussi le début ou voire même peut-être le point de le point névralgique du moment où du départ des Arméniens qui ont quitté leur terre, qui ont commencé à quitter leur terre pour fuir les persécutions, et qui s'est continué, qui a été donc qui s'est poursuivi au XXe siècle avec un premier massacre avant le génocide, un premier massacre des Arméniens d'Adana. C'est-à-dire de toute la Cilicie, de tous les...
Vous pouvez la situer géographiquement.
Alors c'est le sud de la Turquie d'aujourd'hui, à la frontière syrienne, au nord de la frontière syrienne, qui a, au bord de la Méditerranée, et qui a été, au Moyen-Âge, un empire franco-arménien, en tout cas, un royaume franco-arménien, qui a commencé par être un royaume arménien, et ensuite les Francs sont venus. Il y a eu des alliances entre les familles princières et royales arméniennes, et il y a eu donc cet état de la Cilicie arménienne s'est terminé en 1375 et a été sous les coups des Mamelouks d'Égypte, et ensuite donc ce sont les Turcs Seldjoukides qui sont arrivés dans la région et qui ont occuper tout cela. Donc, je parlais donc des massacres de 1909 en Cilicie, qui a fait quelque chose comme 30 000 morts. Et là, donc, c'est ces deuxièmes massacres, ce n'était plus le sultan. C'était à l'époque c'était un an après l'arrivée au pouvoir des jeunes Turcs. Et les jeunes Turcs sont arrivés au pouvoir. On fait une révolution constitutionnelle contre le sultan, 1907. 1908, ils ont pris le pouvoir et ils ont prôné l'égalité entre les peuples de l'Empire, ce qui veut dire qu'il n'y avait pas d'égalité, c'est-à-dire que les Arméniens, les Grecs, les Juifs, qui étaient beaucoup moins nombreux, dans la région, c'est-à-dire les chrétiens et les juifs avaient un statut inférieur. C'était des sous-sujets, parce que ce n'étaient pas des citoyens. Il faut bien faire la distinction entre citoyens et sujets. Les populations étaient des sujets du sultan. Les Arméniens avaient un statut inférieur. Ils n'avaient pas le droit de porter des armes. Les Arméniens, les Grecs, n'avaient pas le droit de monter à cheval, ils n'avaient pas le droit d'avoir des églises. En tout cas, le son des cloches des églises ne devait pas se faire ouvertement, publiquement. Et donc, toute une série. Les Arméniens, pour le témoignage d'un Arménien au tribunal, il fallait. D'un Turc au tribunal, il fallait trois Arméniens en face pour faire le poids. Donc c'était un statut inférieur, c'était le statut de dhimmi, c'est-à-dire le statut de protégé dans les régimes islamiques. Et les Arméniens, comme d'autres peuples soumis, les Bulgares, les Grecs avant, etc., les Arméniens, à partir de la fin du 19e, et notamment à partir de 1865, ont commencé à demander l'égalité de traitement, ont demandé des droits, parce que c'était la catégorie, c'était la vache à lait de l'Empire ottoman. En tout cas, les Arméniens devaient payer des taxes beaucoup plus lourdes que les Turcs. Et les Arméniens se sont soulevés. Soulever, c'est un très, très grand mot. Hein. Les Arméniens se sont soulevés contre l'idée de l'exploitation dont ils faisaient l'objet. Et il y a eu donc de la répression à partir de la fin du 19e siècle contre les Arméniens. Mais quand on parle de répression, on a l'impression que c'est parce que les Arméniens ont contesté leur statut. Or, il ne s'agissait pas seulement de cela. Il s'agissait aussi d'une vision qui était prônée par le sultan Abdulhamid, par le dernier sultan, ou l'avant-dernier sultan, pardon, de l'Empire ottoman, qui visait à créer un empire comment dire, qui était basé sur l'islam, disons. Les jeunes Turcs sont arrivés avec des idées d'égalité. Les jeunes Turcs, c'est le parti Union et Progrès qui a fait la révolution contre le sultan. Ils ont fait cette révolution avec l'aide des minorités, notamment la minorité arménienne, mais aussi, je dis la minorité dans les régions arméniennes, les Arméniens n'étaient pas minoritaires. Oui. Mais à Constantinople, les Arabes du Moyen-Orient qui ont participé à cette révolution contre un sultan sanguinaire qui organisait des massacres des minorités, etc. Mais l'idée, c'était que tous les peuples devenaient des frères, tous les peuples de l'Empire ottoman avaient les mêmes droits et se mettaient sur... Il n'y avait pas de statut inférieur, de dhimmi, de protégé chrétien ou de protégé des autres peuples dans cette majorité turque de l'Empire qui se voulait être un empire turc. C'est-à-dire on est passé de l'Empire ottoman petit à petit avec l'arrivée des jeunes Turcs à un empire purement turc, c'est-à-dire un empire qui se préparait à un passage éventuel qui a été réalisé par le Mustafa Kemal plus tard, un État turc, un État-nation turc où l'élément turc majoritaire devait dominer le reste.
Et donc, il y a eu des événements qui ont accéléré ce processus après 1909.
Alors, après 1909, donc, ce deuxième massacre d'Adana est passé un peu sous silence parce que tout le monde s'est dégagé et le gouvernement jeune turc a envoyé une mission pour faire l'évaluation de ce qui s'était passé à Adana. Et quelques années après, la guerre a commencé. La Turquie est entrée en guerre contre la France, l'Angleterre, la Russie, aux côtés de l'Allemagne. Et l'idée de la turcité de l'Empire a prévalu sur toutes les autres visions, toutes les autres conceptions de l'Empire, notamment la conception égalitaire des peuples. Et après les défaites en Bulgarie, dans les Balkans, en Grèce, etc., il restait donc cet élément arménien à l'est de la Turquie d'aujourd'hui, sur ce qu'on appelle le plateau arménien. Le plateau arménien qui est un plateau effectivement de 2000 mètres d'altitude, donc c'est l'est de la Turquie d'aujourd'hui qui a sa continuité dans l'Arménie d'aujourd'hui. Cet élément arménien compact constituait un danger imaginaire ou réel pour les dirigeants turcs qui considéraient que si les Arméniens se mettaient à réclamer leur indépendance aussi, il ne resterait plus de la Turquie que des miettes. Et donc, en prévision de ce risque, le génocide des Arméniens a été organisé, non pas en réaction à des demandes d'indépendance, à des velléités d'indépendance de la part des Arméniens, parce que les Arméniens se sont toujours contentés de demander des réformes dans leur région. Il n'a pas été question officiellement de sortie de l'Empire pour les Arméniens. Et en place et lieu de réforme, il y a eu l'exécution, la mise en place d'un plan d'extermination des Arméniens en 1915. Donc ça a commencé en 1914, au moment de la guerre. Il y a eu une crispation de ce pouvoir des jeunes Turcs, du parti Union et Progrès. Ils ont mis en place une organisation spéciale qui est devenue le mythe d'aujourd'hui, hein, l'organisation spéciale pour l'extermination des Arméniens, qui est devenue les services secrets turcs d'aujourd'hui. Ça, il faut le savoir. Donc, il y a une continuité dans cette... Et d'ailleurs, les premiers dirigeants des services secrets turcs, qui s'appellent le mythe aujourd'hui, étaient des auteurs physiques qui ont organisé l'extermination physique des Arméniens. Voilà, donc c'est le génocide des Arméniens avait donc pour histoire récente, donc c'est tout ce mouvement d'indépendance des pays qui ont constitué l'Empire ottoman, des pays chrétiens en général, voire même avec des îlots musulmans comme l'Albanie, comme la Bosnie, Herzégovine, etc., etc. Et donc les Arméniens étaient la dernière composante de l'Empire ottoman qui était trop proche du centre, c'est-à-dire de Constantinople, où il y avait le pouvoir à l'époque. Et il fallait, dans l'idéologie jeune turque, il fallait éliminer ce qui constituait comme obstacle à l'établissement d'un État-nation, d'une part, et d'autre part, à des velléités d'expansion vers l'Asie centrale, comme je disais tout à l'heure, de ces gens-là, enfin du turquisme et de la turcité, pour créer un empire dans les grands espaces de l'Asie centrale, dans les steppes d'Asie centrale.
Donc on ne va pas revenir sur précisément le génocide arménien, comment ça s'est passé, mais c'est intéressant d'avoir tout le contexte politique. Ce qu'il faut dire, c'est que quand même, il y a toujours un fort ressentiment chez les Arméniens, notamment parce qu'il n'est pas reconnu par le régime turc, mais aussi par d'autres pays, plus de 100 ans après.
Oui, alors la question du génocide, ce n'est pas seulement la reconnaissance, en fait. Bon, il s'agit d'une injustice historique majeure où les Arméniens ont non seulement perdu la vie, mais ils ont perdu toute une culture. Ils ont perdu leurs biens, ils ont perdu leur langue, ils ont perdu leurs traditions, tout ce qu'ils avaient créé pendant au moins 2 millénaires dans cette région a été mis en danger par le génocide, non seulement mis en danger, mis en péril. Par le génocide. Donc quand on parle du génocide, on parle en général des vies humaines. On dit 1 million, 1,5 million, etc. Donc d'accord, les vies humaines ont une importance majeure, mais derrière cela, il y a un monde qui s'est écroulé totalement. Je parle par exemple de la langue. Notre langue occidentale, l'arménien occidental, dont on a des bribes aujourd'hui en France, parce qu'il y a de petites écoles, quelques écoles en France qui enseignent cette langue, était une richesse extraordinaire. Et puis dans le tableau mondial des langues majoritaires, minoritaires, etc., c'est une perte aujourd'hui. Et c'est une perte de civilisation, parce qu'il y a une civilisation qui a été détruite avec cela. Alors, il y a aussi la question des biens collectifs des Arméniens, la question des églises, des monastères. Pendant 70 ans, 80 ans, ces églises ont été la cible de l'armée turque. On a détruit délibérément ces monuments. Il reste très, très, très peu de monuments arméniens dans cette région. Il y a les biens des Arméniens, il y a l'or des Arméniens, il y a les comptes bancaires des Arméniens, il y a les assurances que les Arméniens avaient contractées. On en a parlé un tout petit peu au moment d'Aksa, qui a fait une petite restitution de quelques millions à des avocats américains. Il y a la question globale de la présence des Arméniens de leur territoire. Parce que ce qui fait la caractéristique de ce génocide, c'est que les Arméniens ont été privés de leur patrie. C'est-à-dire que les Arméniens qui vivaient depuis 3 millénaires dans cette région, sur ces terres, ces Arméniens-là ont été extirpés de leurs terres et il y a eu une appropriation de leurs biens, de leur culture, de leurs terres, de leurs maisons, de leurs champs, etc., par le gouvernement turc. Parce que ce qu'il faut bien se remémorer, c'est qu'il ne s'agit pas d'un hasard s'il y a eu des massacres. Ce ne sont pas des massacres sporadiques qui ont fait le génocide des Arméniens. Ce sont des massacres centralisés, organisés par l'État. L'État a mis en place donc des comités où il y avait le ministère de la Justice, le ministère des Armées, le ministère de l'Intérieur. Donc ces représentants ont organisé la déportation des Arméniens dans le désert syrien et leur extermination progressive et finale, progressive sur le chemin et finale à Deir ez-Zor dans le désert syrien. Donc il s'agit d'un crime d'État. Alors qu'est-ce qu'on fait de ce crime d'État ? Effectivement, on peut l'oublier, on ne peut pas l'oublier. On pourrait imaginer que c'est du passé, ça fait 100 ans, et qu'il faut l'oublier. Les Arméniens ne l'oublient pas. Même les générations, les quatrièmes générations, qui n'ont pas vécu cela, ils ont ce poids de ce génocide sur eux. Et donc, c'est une question de justice humaine, de justice internationale, que la Turquie essaye de faire oublier en passant des contrats avec des pays qui auraient peut-être des velléités pour reconnaître ce génocide, etc. Quand vous parliez de pays qui n'ont pas reconnu le génocide, il y en a quelques-uns, effectivement, mais en général, les pays démocratiques ont reconnu le génocide. Enfin, le monde démocratique l'a reconnu, même les États-Unis, qui ont des relations privilégiées avec la Turquie à travers l'OTAN et à travers leur alliance militaire, mais les États-Unis ont reconnu sous Joe Biden. Donc, mais reconnaissance du génocide, mais après. En réalité, on se rend compte aujourd'hui avec ce qui se passe en Arménie et l'Azerbaïdjan, soutenu par la Turquie, bien sûr. Et je parlais tout à l'heure de pays turcophones et d'alliances panturquistes. Ces deux pays-là sont des exemples majeurs de cette alliance panturquiste. Eh bien, ce qui se passe dans la région aujourd'hui, c'est non seulement la continuité de ce génocide de 1915, mais c'est aussi le parachèvement de ce génocide. Parce que finalement, quel était le but du génocide ? Ce n'était pas de faire de la leçon aux Arméniens, ce n'était pas, comme disaient les Turcs, ils l'ont bien mérité, etc. C'était d'extirper tout élément qui n'était pas turc de cette région. Ils l'ont réussi dans l'Arménie historique, dans l'Arménie occidentale, ce qu'on appelle l'Arménie occidentale, c'est-à-dire la partie de l'Empire ottoman du plateau arménien. Ils l'ont réussi pendant une trentaine d'années. Ils l'ont parachevé dans cette partie de l'Arménie historique au moment de l'instauration de la République par Mustafa Kemal. Et aujourd'hui, le tour des Arméniens du Caucase du Sud, c'est-à-dire de l'Arménie orientale, semble arriver. Et on a de quoi s'inquiéter sur le sort de l'Arménie, de l'État arménien et de la population arménienne qui est de ce côté-là de la frontière naturelle, j'allais dire, de l'Araxe, c'est-à-dire l'Arménie d'aujourd'hui, la République arménienne d'aujourd'hui, sa population, 3 millions d'habitants, mais aussi le Haut-Karabakh qui, aujourd'hui, est vidé. De fait, de facto, a été vidé par les soins de la Turquie et de l'Azerbaïdjan, qui ont attaqué en 2020 de sa population, qui s'est réfugiée en Arménie. Voilà donc le questionnement aujourd'hui, c'est de savoir si la Turquie va réussir, à travers l'Azerbaïdjan, à extirper, encore une fois, ces populations arméniennes du côté de l'ex-empire russe, c'est-à-dire de l'Arménie indépendante d'aujourd'hui.
Eh ben, c'est une superbe transition. Je pense que maintenant, on peut parler de cette enclave qui est le Artsakh. Et quand débute son histoire?
Alors, l'Artsakh, c'est la même histoire que l'Arménie. Parce que donc, dans la période antique, l'Artsakh a été une des provinces arméniennes. Artsakh et Oudik a été une des provinces arméniennes où la christianisation en 301 a eu un impact très majeur puisque la première école arménienne a été créée en Artsakh. Donc des églises, des monastères ont été créés à Artsakh, donc, qui s'appelait Artsakh à l'époque, mais qui... Une fois occupé par les trois empires dont je vous ai parlé, enfin du moins les deux empires, d'abord l'empire perse, parfois l'empire turc, mais qui est passé des mains des uns et aux autres, l'Artsakh a été le berceau de la culture arménienne. Je disais bien, le monastère, au monastère de Kantsassar a été... Les deux, trois monastères les plus importants de l'Artsakh ont été des lieux culturels extrêmement importants. Alors, l'Artsakh donc, a eu la même destinée que toute la région. Passer d'une main à l'autre, passer de l'Empire perse à l'Empire turc épisodiquement, et ensuite l'invasion de l'Artsakh, comme toute de cette région, par des peuplades, j'allais dire, turciques, notamment nomades, qui sont arrivés là et qui ont petit à petit, qui se sont installés autour de l'Artsakh montagneuse. C'est pour ça qu'on appelle ça le Haut-Karabakh, parce que le Haut-Karabakh, c'est la partie montagneuse de l'Artsakh, parce qu'il y avait le Bas-Karabakh aussi, le Karabakh, les vallées qui étaient autour, qui était aussi habité par des Arméniens. Donc avant l'arrivée des Russes, de l'Empire russe, cette région a survécu à toutes les invasions, avec des statuts différents. Il y a eu, par exemple, les Mélikas, entre guillemets, les Méliks étaient des princes arméniens, qui étaient reconnus par l'envahisseur arabe, quand les Arabes, à partir du 8e siècle, ont envahi la région, les envahisseurs, les occupants du moins, persans, iraniens. Et donc, cette région À la différence de l'Arménie qui a été soumise à des invasions meurtrières où tout a été totalement détruit par les Mongols, les Seldjouks, les invasions d'Asie centrale, l'Artsakh a gardé une semi-autonomie, enfin une autonomie en tout cas, une semi-indépendance pendant de longs siècles. Donc c'était les princes arméniens qui ont dirigé cette région. Il y a eu des épisodes où il y a eu un ou deux chefs de tribus turcs qui ont peut-être eu des places autour de l'Artsakh, qui ont eu des petites principautés autour de l'Artsakh, mais c'était majoritairement arménien. Et la population est toujours restée majoritairement arménienne, même si il y a eu, à partir du début du XXe siècle, une velléité de la part, des dirigeants turcophones de la région, de l'Azerbaïdjan à partir de l'indépendance, voire même avant l'indépendance, de changer la démographie de l'Artsakh. Ils n'ont pas réussi. Et aujourd'hui, c'est ça qui est réussi, c'est-à-dire avec la fuite forcée des Arméniens, c'est cette démographie-là qui a totalement changé. Pour la première fois dans l'histoire, depuis plus de 3000 ans, cette région n'est plus habitée par des Arméniens.
C'était la première partie de l'apérophonie spéciale Arménie, un génocide de basse intensité dans le nouveau désordre mondial.
Et c'était quoi ?
L'apérophonie !
Ouais, mais c'était quoi ?
L'apérophonie !
C'est quoi ?
L'apérophonie !
Quoi ?
Sur Campus Grenoble !
Sur quoi ?
Sur le 90.8 !
Ah, sur Campus Grenoble 90.8 !
Oui !